Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, L'été sort d'hypnose. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. À la cuisine, elle lui demande « Qu'est-ce que tu as ?» Il lui répond sans réfléchir « Je l'aime !» Elle soupire et lui dit « Il ne manquerait plus que ça. Tu es fou. Les jeunes filles rendent fous les jeunes gens. » Pas elle, mais si, toutes. Alors toi aussi ? Elle est surprise et se dit « Peut-être. » Elle lui dit « Je suis ta mère. » Il lui dit, en souriant, « Ce n'est pas une réponse. » Elle hausse ses épaules et lui demande « Que vas-tu faire ?» Il lui répond « Je ne sais pas. » Elle lui dit « Le malheur est entré chez nous. » Il la retrouve, le cœur battant et ne sachant que lui dire. Elle est dans sa chambre, dans un fauteuil, elle lui dit « J'ai bien réfléchi. C'est tout à fait bien. Il faut que vous m'aimiez. » Il lui répond « Mais ?» Elle lui dit « Il n'y a pas de mais. » Il lui dit « C'est impossible. » Elle lui demande « Vous ne m'aimez pas ?» Il lui répond sans réfléchir « Je ne dis pas ça. » Elle est heureuse et lui dit « Vous m'aimez vous aussi. Ne mentez pas. » Il ne lui dit rien et a le cœur qui bat. Elle se soulève et se pend à son cou. Il est tellement heureux de la voir dans ses bras qu'il ne bouge pas. Elle lui demande « Qu'allons-nous devenir ? » Il lui répond « Je ne suis pas de votre monde, il n'y a rien à faire et je dois vous quitter dans 2 jours. » Elle lui dit « Je partirai avec vous. » Il lui dit « Ne dites pas de bêtises. Il y a des moments où vous êtes trop sérieuse et d'autres. » Elle lui dit « Je suis amoureuse. » Il lui dit « Moi aussi, ça me fait de la peine de ne plus vous revoir, que je ne vous reverrai plus plutôt. Mais comment faire ?» Elle lui dit « Nous pourrions, en attendant, nous voir pour sortir, et avec le temps, je réussirai à convaincre mes parents. » Il lui demande « Sortir ? Mais quand ?» Elle lui répond « Disons, samedi à 15h, avenue Velasquez. Nous pourrions discuter plus calmement en marchant au parc Monceau. Vous ne pouvez pas refuser ce rendez-vous. » Il lui dit sans réfléchir. « Ça ne me serait impossible de vous refuser. » Elle lui dit. « C'est parce que vous m'aimez. » Et elle lui donne un baiser sur la joue. Il lui dit « Oui, je vous aime. » Elle lui demande « Vous le savez depuis longtemps ? Je m'en suis rendu compte qu'hier après-midi. »
La porte s'est ouverte. C'est sa mère. Ils ont tout juste le temps de se séparer. La mère dit à Sylvestre, « C'est demain votre dernier jour. Vous viendrez me voir au salon demain après la séance et je vous ferai le chèque. J'ai été enchantée de ce que vous avez fait et vous en remercie. Ma fille est complètement rétablie. Enfin physiquement. » Mais pour ce qui est de sa tête, elle est toujours aussi folle et doit nous préparer quelque chose. Pascal lui dit, « Que veux-tu que je fasse ? Je n'ai même pas de voiture. C'est une bonne chose.
Comme prévu, ils se voient en cachette de leurs parents, vont au restaurant, au cinéma, se promener dans les jardins, etc. Ils parlent de leur amour sans retenue, mais n'osent pas parler de l'avenir. Les parents de Pascal sont contents qu'elle sorte. Et pour sortir le soir, elle dit qu'elle va voir une amie. Ils ne pensent qu'à leur amour, sans songer à la vie qui les entoure, ni à leur avenir, ni comment ils vivront. Oui, ni comment ils vivront. Ce beau ciel bleu risque d'être assombri. L'on parle de conflits entre nations, de chômage, etc. Un rien peut déclencher une guerre entre le nord et le sud. La tension a lieu entre les peuples à cause de l'émigration, du climat, du chômage. Il y a énormément de chômage dans le monde entier et en France aussi. Ce chômage crée de la misère et de la violence. Le chômage est dû à la surpopulation et à la robotisation. La plupart de la population vit dans une grande misère, même ceux qui ont du travail. Seule une petite minorité peut vivre décemment dans le luxe. Tout ceci crée des émeutes et des tueries qui sont faits par des gens qui n'ont plus rien à perdre. Le gouvernement ne réagit pas contre la misère et on a l'impression que cela l'arrange. Pascal et Sylvestre sont tellement pris par leur amour qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe autour d'eux. Même si Sylvestre fait un peu d'humanitaire, car les gens qu'il aide sont des gens qui se tiennent comme il faut malgré leur misère. Pascal voit de temps en temps ses amis, mais elle a la tête ailleurs. Elle les trouve superficiels, ne parle que de vacances, de fin d'études, d'avenir et de mariage. Sa mère s'est mise en tête de la marier avec Loulou. Elle dit à son mari que c'est un garçon charmant, qu'il a de l'avenir. Il lui dit
« Il est bien jeune et a l'air gamin. Il ne pense qu'à rire. »
Elle lui dit « Il changera et puis... on les mariera dans quelque temps. Il faut absolument marier notre fille avant qu'elle ne fasse une bêtise. »
Son mari hausse ses épaules.
Chaque fois que Loulou va voir Pascal, sa mère lui fait des politesses, lui dit qu'il est charmant, bien élevé, etc. Loulou est surpris. « Pascal dit que sa mère doit être amoureuse de lui. Il regarde bien la mère et finit par la trouver bien. Il décide de la courtiser et lui apporte des fleurs en allant voir Pascal. La mère est flattée, lui croit qu'elle l'aime. Pascal n'y comprend rien. Elle trouve idiot le comportement de Loulou avec sa mère. La mère dit à son mari qu'il est parfait. Dans le salon, une fois qu'elle est partie, elle parle à sa fille de Loulou.
« Il est charmant. Comment le trouves-tu ? »
Pascal, qui connaît Loulou depuis toujours, lui dit « C'est un peu comme mon petit frère. » Sa mère lui dit
« Pas ton petit frère, mais un jeune homme charmant. Est-ce qu'il te fait la cour ?»
Pascal lui dit « Il l'a fait plutôt à vous. » Sa mère sourit et lui dit
« Si tu es jalouse de ta mère, c'est que tu l'aimes. »
Pascal rit. Sa mère hausse ses épaules. Pascal dit à Loulou que sa mère veut les marier et lui dit « Je suis triste parce que je pensais que ta mère était amoureuse de moi. » Il rit tous deux. Elle lui dit « J'ai un service à te demander. C'est de jouer l'amoureux avec moi parce que je suis amoureuse de quelqu'un. » Elle lui raconte tout et dit qu'ils sortent ensemble. Elle lui dit « Nous pourrions faire semblant de sortir ensemble et j'irai voir Sylvestre. » Il lui dit « D'accord. » Lorsqu'elle revoit Sylvestre, elle lui dit que sa mère cherche à la marier. Il est triste. Mais elle lui dit « Ne te fais pas de soucis, c'est avec un ami d'enfance qui aime ma mère. » Ils rient tous deux. Un soir, durant le repas, la mère de Sylvestre demande « Qu'est-ce que tu fais avec cette fille ?» Il lui demande « Comment l'as-tu su ?» Elle lui dit
« Une mère, c'est tout. Et puis, je vous ai vu au parc Monceau. Tout ça va mal finir. Pense à ton avenir et à ton travail. » Il lui répond « C'est ce que je fais et mon avenir est avec cette fille. »
Sa mère hausse ses épaules. La mère de Pascal lui demande comment elle trouve Loulou. Elle lui répond « Il est très bien. » Sa mère est heureuse. Son père trouve bizarre cette histoire et surveille sa fille dans ses allées et venues. Et il lui demande au salon
« Que comptes-tu faire plus tard ? Continuer tes études ? Travailler ? Partir en voyage ?»
Elle lui répond « Je vais y penser. »
« Tu es bien trop insouciante. Il faut penser à ton avenir maintenant. »
« Mais j'y pense ?» Il lui demande
« En faisant quoi ?»«
En rencontrant des gens. » Son père hausse ses épaules.
Thank you.
Sa mère, Armande, voit entrer dans son magasin d'antiquité, rue Saint-Honoré, une femme grande, mince, blonde, très distinguée. Elle porte un tailleur bleu, roi. La femme lui demande avec le sourire.
« Vous me reconnaissez ?»« Non, je ne vois pas. »
L'autre lui dit.
« C'est votre amie de pensionnat, Hélène, de Haut-de-Bord. » Quelle surprise !
Elles s'embrassent toutes les deux. Hélène lui dit.
« J'ai appris par hasard que tu avais un magasin d'antiquités. »
C'est en cherchant un antiquaire. Je recherche une commode Louis XIII, Régent du Verre. Amande la fait asseoir dans un fauteuil près de la table basse.
Tu désires prendre du thé? Oui, je te remercie.
Amande va au fond de la boutique pour aller voir la petite vendeuse qui est une jeune fille de 20 ans, blonde, mince, de taille moyenne, habillée d'une robe noire toute simple. Elle lui dit
« Vous allez chercher le thé pour deux personnes, au café qui se trouve au bord de la rue. »«
Bien, madame. » Une demi-heure plus tard, en prenant le thé, elle parle de leur jeunesse et de ce qu'elles sont devenues. Armande lui parle de sa fille.
Elle me crée beaucoup de problèmes. C'est le temps des amours et l'âge bête. Et puis Paris a tellement de tentations. Mon mari lui a acheté une voiture de tourisme et bien entendu elle a eu un accident qui a été de sa faute. Une faute d'inattention. Le devant de la voiture était allé sous un camion. Elle a été gravement blessée. Après son accident, elle a continué à faire des bêtises. Un flirt stupide qu'elle a avec son kiné. Tu penses, un simple kiné, presque un domestique pour notre monde. Mais j'ai mis le haut là. Elle fréquente un garçon très bien. Loulou Laforge. Le fils du célèbre industriel. Madame d'Haut-de-Bord lui dit, tant mieux pour toi, si ça se termine bien. Amande lui dit, tu as de la chance, toi, et les tiens vivaient en dehors du monde. Oui, et nous tenons à y rester, mais nous avons peur de l'avenir. On parle beaucoup de guerre en ce moment.
Ensuite, Armande lui montre ses commodes, et elles se mettent d'accord pour que Madame de Haut-de-Bord en achète une. Avant qu'elle ne parte, Armande l'invite à une de ses soirées chez elle.
« Je te remercie et j'accepte. »
En rentrant le soir, Armande prévient sa famille qu'elle a invité à sa soirée son amie Hélène de Haut-de-Bord.
C'est une vieille amie d'enfance qui est venue dans mon magasin. Je ne la reconnaissais pas. Et puis nous avons parlé. Elle m'a acheté une commode Louis XIII.
Une semaine plus tard, Hélène va à la soirée de son amie. Armande a aussi invité Loulou. Elle dit pour le présenter.
C'est un très grand ami de ma fille.
Durant le repas, chacun parle de ce qu'il fait et ensuite au salon, on continue à parler. Le père dit à Hélène
« J'ai de plus en plus de difficultés dans mes affaires. Les gens sont inquiets et pensent qu'il va y avoir la guerre. »
Hélène lui dit « Nous aussi, nous sommes inquiets.
mais nous tenons à rester en dehors de tout ça. Et puis, nous avons toujours vécu en dehors du monde. Malheureusement, je crains que la guerre soit inévitable. Un de nos amis qui vient nous voir de temps en temps, un de nos très chers amis, Monsieur de Janjou, qui est l'ambassadeur extraordinaire du pape, nous a dit que la guerre était proche. Pour le moment, nous faisons tout pour ne pas y penser. Et qu'en pense la jeunesse des événements ? Loulou lui dit, s'il y a la guerre, je ferai tout pour me faire réformer. Je suis trop sensible pour aller me battre. Le père Pascal lui dit, ce n'est pas bien, jeune homme. Il faut se défendre pour défendre nos droits et notre liberté. Et si la jeunesse ne veut pas aller se battre, qui pourra aller se battre ? Loulou lui dit, il y a suffisamment de monde qui veut aller se battre. Et puis, je ne suis pas le seul à ne pas vouloir me battre. Il regarde Madame de Hautebord. Elle ne dit rien. Pascal dit, moi je suis contre la guerre, parce qu'il y a suffisamment de misère autour de nous. Loulou dit, Pascal est devenue socialiste. Elle veut aider les pauvres. Hélène demande à Pascal, est-ce que la personne que vous aimerez devra avoir les mêmes idées que vous ? Pascal lui répond, mais il a les mêmes idées que moi. Comme Loulou a dit qu'il était contre la guerre, sa mère pense que c'est lui l'élu du corps de sa fille. Ensuite, Pascal et Loulou se mettent dans un coin pour jouer aux dames bruyamment en riant. Sa mère dit à Hélène, « Ce sont de vrais gosses !» Avant de partir, Hélène dit à la mère, « Tu es sûre qu'ils s'aiment ? Ils ont l'air d'être comme des frères et sœurs. Nous sommes amis d'enfance, et tu sais que tu peux compter sur moi si tu as besoin d'aide. » La mère demande, « Pourquoi me dis-tu ça ? J'ai comme un pressentiment. » La mère est inquiète et se dit qu'il faut qu'elle surveille sa fille. Son mari lui dit que sa fille sort beaucoup avec Loulou.
Tu en es sûr?
Oui, bien sûr qu'elle sort avec lui.
On parle de plus en plus de conflits qui peut y avoir entre l'Europe et la Russie. Mais personne n'en parle ouvertement et puis la France est déjà en guerre en Afrique pour aider les pays africains contre les islamistes. L'Amérique est retournée en Irak et aide la Corée du Sud qui risque d'être envahie par celle du Nord. L'Europe ne réagit pas contre la menace russe. Et puis il y a les troupes de l'OTAN. C'est justement les troupes de l'OTAN qui créent conflit en Europe, car l'Ukraine veut adhérer à l'Europe et la Russie ne veut pas qu'elle ait ses frontières, à ses frontières des troupes de l'OTAN. La Russie a déjà annexé une partie de l'Ukraine et les pro-russes se battent en Ukraine depuis des années. L'Europe se demande s'il ne devrait pas intervenir pour aider l'Ukraine et cela risquerait de mettre en guerre l'Europe contre la Russie et les Russes risqueraient d'arrêter progressivement son approvisionnement de gaz en Europe. Il y a de plus en plus de monde qui demande cette guerre car il y a de nombreux morts en Ukraine. Les Russes aimeraient bien la guerre avec l'Europe pour reconstruire son empire. La guerre serait un bon prétexte. Certains Européens aimeraient la guerre pour se débarrasser des pays de l'ex-URSS qui créent des difficultés
car ils ne sont pas assez développés et travaillent pour rien. Il faut les aider financièrement et en plus, ces industriels déménagent leur fabrication à cause de la main-d'œuvre à bon marché et sans loi sociale, ce qui crée le chômage dans les autres pays. Donc chacun est pour la guerre, soit pour la gagner, soit pour la perdre, suivant ses intérêts. Mais chacun est pour la guerre sans le dire. En attendant, personne n'ose bouger et attend un prétexte qui enflammera l'Europe. Toutes ces annonces de conflits et ces usines qui déménagent créent du chômage en France et des conflits sociaux. La misère grandit. Pour le moment, cela se voit dans les villes industrielles et les grandes villes. Il y a des manifestations, des émeutes, des occupations d'usines et de bureaux. Mais même des gens qui se révoltent en manifestant ou en créant des émeutes, et même les syndicats ne font pas le lien qu'il y a entre la misère, le chômage et le risque de guerre. Un soir, en se promenant, après avoir été au cinéma dans les rues de Paris, Pascal, Loulou et Sylvestre. Ils sont dans une petite rue déserte et marchent sur la chaussée tranquillement. Tout d'un coup, il voit arriver dans la rue, des deux côtés, une foule en délire. Ils sont tous les trois, ils ont tous les trois très peur et ne savent comment faire pour sortir de la rue. Très vite, ils sont entourés par la foule, en furie. Loulou et Sylvestre tiennent par la main Pascal, qui a très peur. Très vite, une bagarre se fait entre les CRS et les émeutiers. Des coups de feu, des explosions. Des bombes lacrymogènes, des corps qui tombent, des voitures qui explosent, des vitres des magasins qui se brisent, le bruit. La peur, la foule en délire. Ils sont apeurés et ne savent comment faire. Au milieu de la fumée, des coups de feu, des gens qui se battent, des corps qui tombent, ils se sentent perdus et comme paralysés. Mais Sylvestre reprend son sang-froid, bouscule les manifestants pour se faire un passage pour lui, Pascal et Loulou. Il les maintient bien tous les deux par la main et bouscule les manifestants. Pascal et Loulou sont effrayés et essayent de le suivre. Ils sont au milieu du feu, des explosions, des corps qui tombent, de la bagarre. Heureusement pour eux, les personnes qui se battent ne font pas attention à eux. Yeah.
ils réussissent à s'infiltrer entre les gens. Et à sortir de tout ça sans ennui, c'est-à-dire à sortir de la rue pour aller dans une autre rue qui est calme. Mission Charles, comme c'est juste près de chez Sylvestre, Sylvestre leur propose, c'est de se nettoyer chez lui. Pascal lui dit, ça me gêne d'aller chez ta mère. Oui, ça me gêne d'aller chez ta mère. Je suis sûr, mais il lui dit, je suis sûr qu'elle sera très heureuse de vous rendre service. Après ce qui nous est arrivé.
Sylvestre sonne à la porte de l'appartement de sa mère. La porte est ouverte. C'est elle.
Maman, nous avons été pris par une manifestation. J'aimerais, si tu le permets, que mes amis qui étaient avec moi puissent se nettoyer.
La mère les regarde et lui dit
« Bien sûr, entrez !»
Ils entrent, elle ferme la porte. Sylvestre fait les présentations.
Maman, je te présente Pascal et mon ami, lui, Lafarge.
La mère regarde bien Pascal et sait que c'est la jeune fille, mais ne dit rien. Elle dit simplement,
enchantée, je vais vous mener à la salle de bain.
Mais avant, nous allons tout d'abord aller au salon. Il suit ma mère qui les mène tout d'abord au salon. Elle dit,
ce sera mademoiselle à aller en premier à la chambre de bain. Veuillez me suivre, mademoiselle.
Voilà, vous avez tout ce qu'il faut.
Une demi-heure plus tard, après qu'ils aient lavé leur visage et leurs mains, nettoyé un peu leurs vêtements, la mère leur propose un thé. Tout en prenant le thé, elle leur demande ce qui leur est arrivé.
Loulou lui raconte tout avec humour.
Ensuite, la mère a téléphoné pour un taxi. Sylvestre va les raccompagner. Pascal entre chez elle. Elle trouve sa mère dans le couloir. Elle voit ses vêtements déchirés.
Que t'est-il arrivé? Que s'est-il passé?
En racontant, sans faire exprès, Pascal parle de Sylvestre. Sa mère ne dit rien.
Et puis un jour, la nouvelle arrive et surprend tout le monde, comme si elle n'avait pas été prévisible depuis des années. Mais les gens y pensaient sans y penser. Et puis il y a eu un flux tellement important de nouvelles qu'on n'y faisait plus tellement attention. Bien sûr, il y a des discours, des politiques, des syndicats, des intellectuels, mais ce n'était que des discours parmi tant d'autres, et puis on s'habitue à entendre toujours la même nouvelle que l'on n'y fait plus attention et que l'on ne fait plus attention à la menace. Là, c'était la menace de la guerre, et cette menace est devenue la guerre pour de vrai. La surprise fait un choc. On ne peut y croire. On pense que c'est une fausse nouvelle, que c'est une menace de plus. Alors, on veut en savoir plus et on écoute, on regarde, on s'informe comme on peut. On dit qu'on ne les laissera pas faire ça, eux, c'est-à-dire les industriels, les marchands de canons, les politiques. Et puis il y a les droits de l'homme, les États-Unis, l'ONU, l'OTAN, les églises, etc. Et si le peuple refuse d'aller à la guerre, ils ne pourront la faire. Ou qu'ils la fassent eux-mêmes. On n'en a rien à faire de cette histoire d'Ukraine. Ça ne nous regarde pas. On ne sait même pas où ça se trouve et qu'est-ce que c'est que la chose bizarre qui sont russes ou qui ne sont pas russes. Que les Ukrainiens et les Russes se battent entre eux et nous laissent en paix. Les partis de gauche, les syndicats, les gens pour la paix, les droits de l'homme, manifestent contre la guerre, capitalistes, etc. Ces manifestations se transforment pour la plupart par des émeutes à cause du service d'ordre et des partis qui souhaitent la guerre en traitant les autres de lâches et de mauvais Français achetés par les Russes, etc. Certains sont pour la guerre car ils disent qu'on ne peut pas laisser faire tuer les Ukrainiens par les Russes. Que la Russie veut rebâtir son empire par la force et la terreur, et que l'Europe doit montrer qu'elle ne se laissera pas faire, que les pays de l'Est, de l'ex-empire russe, sont entrés dans l'Union européenne et que l'on doit les protéger, etc. Donc, il y a de nombreuses émeutes et qui sont sanglantes. Le Parti communiste français se bat contre la guerre et dit que la Russie a raison. Des émeutiers mettent le feu à leur siège. Ils crient contre les fascistes qui se battent contre le peuple. Et on se bat entre les soi-disant fascistes et les communistes. Malgré tout ça, lorsque les gens reçoivent leur lettre de mobilisation, à part quelques cas, ils vont à leur convocation sans rien dire, même ceux qui ont manifesté contre la guerre. Certains n'y vont pas, mais sont pris de force, et s'ils se battent pour ne pas y aller, ils sont fusillés. Il y a un tribunal d'exception pour juger ces personnes. Les appelés sont convoqués dans des casernes pour apprendre quelques maniements d'armes, pour avoir leurs trousseaux et armes, puis on les mène aux frontières du nord de l'Europe en train.
1, 2, 1, 2, 1, 2.
La marche corrective est lente.
Vivant ! Mort ! Vivant !
Des saboteurs qui sont contre la guerre et pro-russes essayent d'empêcher les trains de circuler en faisant des déraillements, mais très vite les choses s'arrêtent. Les gares sont pleines de monde, de jeunes appelés pour aller dans leurs casernes et des gens qui fuient les villes pour aller dans les campagnes. Ça court, ça crie, ça pleure, il y a de la musique militaire, les ordres, etc. Les hommes vont à la guerre avec la peur au ventre et en souhaitant ne pas se battre. Mais dès que les lettres de mobilisation sont envoyées, les émeutes diminuent et les gens, pour la plupart, se soumettent. Pascal a peur pour Sylvestre parce qu'il est en âge de partir à l'armée et en plus il est kiné. Un après-midi vient les voir Loulou qui est reçu au salon par la famille et qui leur dit qu'il est mobilisé. Il est effondré et la famille aussi. La mère dit:
Loulou, à la guerre, c'est ridicule.
Elle l'embrasse et lui dit:
je te considère comme mon fils et Pascal te restera fidèle.
Ni Pascal ni Loulou ne veulent comprendre ce qu'elle veut dire, mais ils sont émus. Le père aussi embrasse le pauvre Loulou. Puis la mère invite tout le monde à prendre le thé et l'on essaye de réconforter le pauvre Loulou en lui disant que la guerre ne va pas durer. Pascal se dit que si Loulou peut partir à la guerre, alors son Sylvestre aussi partira. Elle est effondrée. Tous s'en vont tristement. Pascal l'embrasse. Dans la soirée, Pascal reçoit un appel téléphonique de Sylvestre qui lui dit:
je veux te voir demain matin devant la gare du Nord à 8h.
Je suis mobilisé. Elle est effondrée et se met à pleurer. Il lui dit:
il ne faut pas pleurer, tout se passera bien. Je ne peux pas te parler plus longtemps car je suis avec ma mère. Alors à demain devant la gare du Nord à 8h. Je t'embrasse.
À demain, je t'embrasse.
elle passe une nuit terrible. Lui passe la soirée avec sa mère qui pleure et lui prépare sa valise. Le lendemain matin, Pascal réussit à voir. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. L'été sort d'hypnose. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. L'été, L'apostrophe. E accent aigu, T-H-E accent aigu, pas été la saison. C'est pour cela que j'ai mis sort d'hypnose. Parce qu'à la radio, on ne peut pas voir la différence des deux noms. L'été était le fleuve de l'enfer dont les eaux avaient le pouvoir de donner l'oubli. Dans l'Antiquité, le sommeil était un peu la mort.